Go. Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez l'édition du 24 janvier 2022 de Sans détour. Aujourd'hui, nous avons une émission pleine de choses intéressantes, pleine de nouvelles, pleine de découvertes et pleine d'ouvertures. Nous aurons Mme Yasmine Laroche, sous-ministre à l'accessibilité au sein de la fonction publique fédérale. Elle parlera d'emploi au gouvernement canadien. Jean-René Bélanger, directeur général d'IMECA, une entreprise de Sherbrooke qui met son expertise au service de la recherche, entre autres pour les maladies neurologiques comme l'Alzheimer et la sclérose en plaques. Finalement, nous parlerons à Mme Ariane Chalifoux, bibliothécaire coordonnatrice au service de l'accueil et de l'accessibilité à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et tout ça pour conclure avec Christiane Campagna et sa revue de presse. Au cours de la prochaine heure à Sans détour. Madame Yasmine Laroche, bonjour. Comment allez-vous?
Bonjour, M. Beauregard. Ça va très bien, et vous?
Bien, ça va très bien, super. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'émission. Votre parcours est quand même remarquable. Vous êtes en ce moment sous-ministre de l'accessibilité au sein de la fonction publique, mais ça fait déjà plus de 20 ans que vous avez des postes de sous-ministre adjoint ou de sous-ministre, soit au transport, aux infrastructures, ainsi de suite. Vous avez fait un parcours remarquable dans la fonction publique. Vous êtes diplômé de l'Université Carleton et ancienne présidente du conseil d'administration de Dystrophie musculaire Canada. Et depuis 2018, le gouvernement a mis sur pied le bureau d'accessibilité à la fonction publique et vous en êtes la leader.
Me voici, mon voilà. Dieu, ça fait longtemps que je suis fonctionnaire.
Oui, mais faut pas prendre ça pour comme quoi c'est ennuyeux. Hein. C'est sûr qu'avec la loi de l'accessibilité pour le Canada, qui a été promulguée il y a déjà quelques années, il y a une obligation pour le gouvernement canadien d'être un employeur modèle.
Voilà, ça fait depuis 2019 que la loi est entrée en vigueur et comme vous avez mentionné, moi j'ai été nommée en poste en 2018 mm-hmm. et vraiment mon mandat a été de aider la fonction publique canadienne à atteindre les objectifs de la loi. Mm-hmm. Alors, et avec beaucoup d'emphase sur évidemment l'emploi qui est quelque chose de très important.
Oui, bien tout à fait. Puis dans ce sens-là, il y a différentes leçons qu'on peut tiré de ce que vous avez fait au fur et à mesure de votre cheminement. On va commencer par la situation en ce moment. Il y a combien d'employés du gouvernement fédéral qui sont des personnes qui vivent en situation d'handicap?
Mais si on regarde nos chiffres, mm-hmm. la fonction publique représente à peu près 250 000 employés.
D'accord.
Et de ça, si on regarde le taux de représentation de personnes en situation de handicap, c'est à peu près 5,2%.
OK, d'accord.
Alors, mais si on regarde ce qu'on appelle le taux de disponibilité dans le marché de travail, mm-hmm. qui représente les gens qui sont disponibles à oui. travailler mm-hmm. avec un handicap, ce taux est de 9%. D'accord. Alors, on voit que nous avons vraiment un écart assez important.
Vous pourriez à toute fin pratique avoir presque deux fois plus d'employés au gouvernement qui sont des personnes en situation d'handicap.
Absolument. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a fixé comme objectif d'embaucher 5 000 nouveaux employés en situation d'handicap d'ici 2025.
Oh,
alors,
d'accord.
On se penche sur ça. Nous avons mis sur pied plusieurs initiatives pour faciliter le recrutement, mm-hmm. mais également le maintien en poste
oui.
et la promotion. Parce que si on regarde, moi je suis fonctionnaire, on adore les chiffres. Alors, oui. Si on regarde le taux d'embauche, mm-hmm. c'est moins de 4% par année, le taux d'embauche des employés, de nouveaux employés en situation de handicap. Mm-hmm. Mais le taux de départ, c'est au-delà de 7%.
Oh!
Ouais.
Alors il y a un glissement quelque part. Là. Pourquoi les personnes ne restent pas? Est-ce que c'est une question d'adaptation du travail ou un mauvais appariement au moment de l'embauche avec les attentes n'étaient pas les bonnes?
On commence à faire une analyse de ces chiffres. Je dirais que on peut identifier que les gens en situation de handicap sont un peu plus vieux mm-hmm. que les autres fonctionnaires et à chaque année, alors on voit un taux de départ
D'accord.
qui est lié mm-hmm. à la retraite.
D'accord.
Mais on voit aussi que pour certains aussi, il y a des problèmes avec les mesures d'adaptation mm-hmm. Dans le milieu de travail où les gens trouvent que ça prend trop longtemps, mm-hmm. c'est trop difficile, les gestionnaires ne savent pas comment le faire. Alors, ça cause des enjeux et des ennuis pour les individus mm-hmm. et ça aussi pourrait contribuer au départ.
Ah, d'accord, parce qu'on peut penser que si le poste de travail n'est pas adéquatement adapté à la personne, à sa situation, la première journée, on va lui demander de patienter, mais après un certain temps, la patience a ses limites. Et puis là, la personne va quitter. Est-ce que le fait que depuis 2 ans, il y a quand même beaucoup de télétravail qui se fait à cause de la situation de la pandémie en ce moment, est-ce que ça l'a changé aussi? Est-ce que ça l'a poussé des gens à la retraite? Est-ce que ça l'a compliqué l'adaptation des postes de travail?
Je pense que c'est l'envers, en
okay.
effet. Je pense que, et c'est drôle, hein, parce que COVID, c'était tellement difficile, mais dans le contexte du travail et de l'emploi, mm-hmm. ce que nous avons aperçu, c'est que ça commence à changer les perceptions
D'accord.
à propos de l'emploi et du travail. Par exemple, où le travail peut être fait. On sait que 3/4 des fonctionnaires fédéraux travaillent maintenant à domicile.
Oui.
C'est le travail à distance. Alors, nous avons trouvé des façons de changer la façon de travailler pour accommoder les besoins de tous nos employés. Alors, ça, je pense que ça a amélioré les choses pour certains de nos employés en situation de handicap. Par exemple, moi-même, j'adore le fait que j'ai pas besoin maintenant mm-hmm. de me rendre au bureau. C'est beaucoup plus facile de travailler de chez moi et de ne pas transiger avec le transport collectif. Mm-hmm. Et ça peut devenir compliqué. C'est beaucoup plus facile pour moi. Alors, moi, je trouve que c'est plus facile. Et je pense que maintenant, ça a commencé à changer. Changer la façon de penser qui peut faire le travail également. Mm-hmm. Et je pense que ça va nous aider à améliorer notre recrutement des personnes en situation de handicap.
Est-ce qu'il y a des types d'emplois qui sont plus fréquemment ouverts? Et est-ce qu'il y a des accommodements qui peuvent être faits? Parce que quand on parle de situation de handicap, c'est tellement large.
Oui.
Comme spectre, parce que vous avez des personnes, par exemple, en fauteuil roulant. Vous en avez d'autres qui ont des problèmes de déficience visuelle. D'autres, ça peut être des problèmes qui sont invisibles, si vous voulez, qui vont être plutôt des problèmes reliés de troubles du spectre de l'autisme ou des choses comme celle-là. Comment vous faites pour déterminer les bons emplois avec les bonnes habiletés des personnes que vous rencontrez?
C'est une excellente question. Ma réponse sera que la fonction publique fédérale est énorme.
Mm-hmm.
On peut faire n'importe quoi. On a tellement de postes ouverts,
mm-hmm.
que ça soit on a des postes scientifiques, économiques, des postes de communication, des postes d'analyse, des postes en administration. Il y a tellement de postes qui sont ouverts. Moi, je pense qu'on peut trouver d'emploi pour n'importe qui. Parce que si je regarde mon propre parcours, j'ai fait toutes sortes de choses.
Mm-hmm.
Alors, je pense que il faut être très ouvert. Il faut vraiment mettre l'emphase sur les capacités et les compétences et pas les limites et les déficiences.
Mm-hmm.
Et je pense que souvent, quand les employeurs potentiels pensent aux individus en situation de handicap, la première réaction, c'est de penser aux
complications.
Voilà, ouais. Voilà. Et pas au potentiel, aux compétences et capacités. Une chose que moi, j'essaie beaucoup de promouvoir, c'est le fait que les gens en situation de handicap sont tellement innovateurs, créatifs, parce qu'il faut toujours chercher de façon de s'adapter à un milieu de travail qui n'a pas été construit pour nous. Alors, et on dit dans notre fonction publique canadienne, on cherche des gens qui peuvent innover, qui peuvent nous aider à trouver de nouvelles façons de faire, de s'adapter. Mais je pense que les gens en situation de handicap sont formidables avec ce genre de capacités et compétences. Et nous sommes dans un marché de travail maintenant très concurrentiel.
Oui.
La population canadienne est en train de vieillir. Alors, il faut aller chercher les gens avec des talents et éliminer les barrières à leur pleine participation.
Est-ce que le fait que les gens travaillent de la maison, ça peut effectivement être une bonne nouvelle dans le cadre d'intégration, mais est-ce que ça ne rend pas l'adaptation du poste de travail plus difficile ou comment est-ce que vous êtes capable de faire ça sur mesure, si je peux dire, pour les gens qui devront travailler de chez eux?
Je pense que oui. Nous avons démontré que c'est vraiment faisable.
Mm-hmm.
Comme j'ai mentionné, avec trois quarts de notre fonction publique travaillant à domicile, nous avons trouvé des façons d'adapter notre technologie, la façon de travailler pour rendre la vie plus simple, plus facile pour nos employés, pour qu'ils puissent donner leur contribution maximale. Alors, je pense que oui, c'est fort faisable. Mais par contre, je dirais qu'il y a un risque. Et le risque, c'est que certains gestionnaires pourraient avoir des préjugés à dire, ah, vous êtes quelqu'un en situation de handicap, mais ça va être beaucoup plus facile si vous restez chez vous.
Oui, c'est ça, parce qu'éventuellement, certaines quantités des employés du gouvernement vont revenir au bureau.
Oui, absolument. Mm-hmm. Et on veut assurer que on n'impose pas des solutions sans consulter nos propres employés.
Oui, oui. Parce qu'il y a des avantages de travailler à la maison, mais il y a aussi un aspect social important d'être en groupe, d'échanger des idées. Tout ce qui se passe autour de la cafetière, là, puis parce que dans un bureau, il y a un aspect social aussi qui a une valeur importante. Qui est intangible.
Absolument. Alors, il faut trouver une façon. On parle maintenant beaucoup d'un milieu de travail hybride.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que des gens vont travailler peut-être quelques jours au bureau et quelques jours ailleurs. Mais comment est-ce qu'on peut faciliter ça pour tous nos employés et pas dire, vous êtes personne en situation de handicap, vous devriez rester chez vous, c'est beaucoup plus facile pour vous.
Oui, oui.
Non, il faut éviter ça, absolument.
Et on n'aura pas besoin d'adapter la cafétéria pour vous. Hein? Voilà.
Voilà.
ça fait partie du problème aussi. Alors, pour l'instant, votre défi est important. Vous voulez augmenter la main-d'œuvre du gouvernement fédéral en termes de personnes vivant en situation de handicap de 5 000 personnes d'ici 2025.
Voilà.
Le temps passe, on est déjà en 2022. Et pour l'instant, vous avez un peu plus d'attrition. Alors, je suis certain que vous allez avoir des défis devant vous, mais en même temps, ça va être intéressant de voir comment vous allez les relever. Ben, Madame Laroche, je vous remercie beaucoup d'avoir été là.
Merci, M. Beauregard. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Puis on se reparlera éventuellement des résultats de votre affaire.
J'espère bien.
On sera capable. Oh, ça va nous faire plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci.
Merci. Au revoir.
Travailler.
Travailler, vous l'aurez deviné, c'est le titre de la chanson de Michel Pagliaro, tiré de son album Bamboo Cuisine Kung Fu. Travailler, ben, tout le monde veut travailler. En parlant de ça, nous avons avec vous, avec nous, M. Jean-René Bélanger, directeur général de la société Imeca, une société de Sherbrooke qui, justement, travaille dans un secteur d'expertise assez pointu pour créer de l'imagerie qui permet de mieux détailler le cerveau et ainsi comprendre comment soigner ou guérir des maladies neurologiques comme l'Alzheimer et la sclérose en plaques. Et Imeca est à la fine pointe dans le monde à ce sujet. Monsieur René Jean-René Bélanger, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, et vous?
Ça va très bien, merci. C'est un sujet qui est scientifique, qui peut paraître complexe, mais on va commencer par le commencement. Le cerveau n'est pas uniquement constitué de matière grise, il y a également ce qu'on appelle la matière blanche, qui longtemps a été un peu négligée du point de vue des scientifiques. On pensait que ce n'était pas vraiment important, alors que ce l'est beaucoup, et c'est à la matière blanche à laquelle vous vous intéressez.
Oui, exact. Dans le fond, chez Imeca, on a une technologie qu'on exploite, qui a été développée à l'Université de Sherbrooke par le professeur Maxime Descoteaux, qui est directeur scientifique chez Imeca. Et en effet, on s'intéresse à la matière blanche. Ça a été ignoré. Je pense pas nécessairement que c'est parce qu'on pensait pas que c'était important. Là, ça a toujours été considéré comme assez important. Par contre, il n'y avait pas les bons outils pour aller la regarder, d'accord, puis aller l'analyser puis l'explorer. Donc, on avait comme un petit peu mis ça de côté, la matière grise étant l'endroit où est-ce que toutes les opérations dans le cerveau se passent. Puis la matière blanche, c'est les connexions, c'est tout le câblage cérébral. Puis c'était difficile de l'analyser puis de la comprendre en détail. Puis ben c'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on a développé cette technologie-là pour pouvoir le faire.
Parce que dans la matière blanche, il y a des filaments nerveux, si je peux dire, là, qu'on appelle des axones. Est-ce bien ça?
Ouais, qui des
sont axones qui sont entourés de myéline. Et, voilà. Et qui est comme une sorte d'isolant, comme le caoutchouc qui serait autour d'un fil de cuivre, si on veut.
C'est ça, exactement. La myéline sert à ce que le courant passe bien. En fait, c'est une protection, c'est une gaine de protection qui est autour des axones. L'axone, comme vous avez très bien dit, là, qui est la partie allongée de la cellule nerveuse, c'est là que l'information se transmet, puis se transmet d'une cellule nerveuse à l'autre, puis le long de ces câblages-là. Puis la myéline est très importante pour bien pouvoir protéger ces câbles, puis faire transmettre l'information.
Et de voir qu'il n'y a pas une dispersion inutile du courant électrique non plus, parce que là, ce qu'il fait, c'est que si le courant électrique se disperse au lieu d'aller à sa destination, bien la connexion est moins bonne, et c'est là que les problèmes commencent.
Oui, vous voyez ça un petit peu comme une route, là, si tout se passe bien à Montréal puis à Québec, mais que l'autoroute 20 et l'autoroute 40 sont fermées les deux, où il y a des choses qui se sont passées, il y a un glissement de terrain ou ces choses-là, bien l'information ne se passera pas entre les deux.
Exact.
Ça va être difficile de pouvoir communiquer de cette façon-là.
Et votre technologie, donc, sert à pouvoir analyser ce qui se passe au niveau de la matière blanche.
Oui, exactement. Dans le fond, c'est une technologie qui est basée sur l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Donc, qui est assez, je dirais, utilisé là, dans des maladies comme la sclérose en plaques, notamment. C'est utilisé dans des diagnostics, notamment pour aller voir les lésions dans le cerveau, les plaques, là, analyser ces choses-là. Par contre, nous, on utilise d'une manière un petit peu différente. C'est des séquences d'acquisition, là, des façons d'utiliser la machine qui sont un petit peu différentes, qui est disponible sur toutes les machines IRM, mais que nous, on utilise, on exploite. Ça s'appelle l'IRM de diffusion. Donc, si on regarde un petit peu comment que les molécules d'eau dans le cerveau diffusent, puis on est capable d'analyser avec ça la matière blanche plus précisément, donc tout le câblage, on est capable d'aller, grâce à notre technologie, voir des éléments de microstructure, là, des éléments qui sont très, très microscopiques, même si on utilise l'IRM, en fait, qui est pas un microscope. Là, on est pas, ça reste quelque chose qui est assez, entre guillemets, grossier comme imagerie. Par contre, nous, on est capable, grâce à nos logiciels, d'aller regardez ce qui se passe au niveau de la microstructure. Donc, si on reprend l'analogie de la route, là, c'est un peu comme si, avec un satellite, on allait voir les nids de poules sur les routes.
D'accord. Là, si vous avez une loupe grossissante suffisante, vous allez voir les nids de poules. Mais dans votre cas, vous utilisez aussi l'intelligence artificielle pour inférer qu'il y a un nid de poules.
Exactement. Donc, c'est le signal qu'on analyse qui... si on ne voit pas directement le nid de poule, pour refaire l'analogie, mmh. mais si les autos contournent le nid de poule, ah, là, on est capable de dire...
Si les autos
contournent le nid de poule, on est capable de dire qu'il y a un nid de poule. Donc, c'est un petit peu ça l'analogie qu'on peut faire.
D'accord. Et maintenant, dans une, je dirais, dans une poursuite plus pratico-pratique, votre façon de faire la cartographie, l'imagerie de la matière blanche, ben ça a des applications dans des maladies neurologiques.
Oui, absolument. Donc, vous l'avez dit tantôt, on l'a ignoré un petit peu la matière blanche dans l'analyse de ces maladies-là, notamment dans l'Alzheimer, mm-hmm. qu'on a regardé beaucoup plus au niveau fonctionnel, donc matière grise, la fonction, regarder qu'est-ce qui se passait au niveau des centres de la mémoire, comme dans l'hippocampe, ces choses-là. Alors que nous, on pose comme théorie, comme hypothèse, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la matière blanche, puis beaucoup de choses qui se passent beaucoup plus tôt, en fait, mm-hmm. que les autres indicateurs de la maladie. Par exemple, des pertes de volume intense dans le cerveau, ces choses-là arrivent beaucoup plus tard, mm-hmm. alors que nous, on est capable de dire dans la matière blanche, il y a des choses qui se passent très tôt dans le développement, même avant qu'il n'y ait aucun symptôme qui apparaisse. Donc des phénomènes très petits, très mineurs, mais qu'on peut capter grâce à nos outils. Puis des espèces de dénominateurs communs, en fait, dans beaucoup de maladies neurodégénératives. Là. On a parlé depuis tantôt Alzheimer, sclérose en plaques, qui sont en soi des maladies assez différentes, mais qui ont dénominateurs communs. Mm-hmm. Et aussi comme des maladies comme Parkinson ou la sclérose latérale amyotrophique, là, mm-hmm. la maladie de Lou Gehrig, qui s'attaquent à différentes parties du cerveau, mais qui ont des mécanismes communs, comme par exemple la neuroinflammation ou on parlait tantôt de la myéline, donc la démyélinisation. Mm-hmm.
Les vecteurs de transmission de l'information voient leur gaine, d'isolation se défaire ou se désagréger. À ce moment-là, bien, le courant ne passe pas parce qu'il est mal diffusé.
Exactement. Donc, on voit ça particulièrement. Ça a été étudié depuis longtemps en sclérose en plaques. Mm-hmm. Il y a un aspect démyélinisateur, puis ça, bien, ça entraîne des cascades dans la maladie. Donc, il y a plusieurs traitements en ce moment là, qui visent à aller régénérer la gaine de myéline ou encore à améliorer l'intégrité des axones ou de mm-hmm. la matière blanche. Puis ben nous, on devient un outil qui sert et à diagnostiquer ces maladies-là plus adéquatement et plus tôt dans le processus mm-hmm. de développement de la maladie, mais aussi de pouvoir faire le suivi, donc le monitoring, le suivi du développement des maladies et de l'efficacité mm-hmm. des médicaments.
Oui, c'est ça, de mesurer si le médicament touche sa cible, parce que les sociétés avec lesquelles vous travaillez, je pense qu'il y en a une qui s'appelle Atara, qui s'occupe mm-hmm. entre autres de sclérose en plaques, une autre société californienne, Inmune Bio, qui elle s'occupe plutôt de la maladie d'Alzheimer. Ils essaient de mettre au point des traitements et vous, essentiellement, vous les aidez à voir si ces traitements-là touchent la cible.
Exactement. Donc, si on prend par exemple la maladie d'Alzheimer, mm-hmm. pour laquelle il n'y a pas vraiment de traitement, là, il y a un médicament qui a été approuvé récemment, mais qui est assez controversé quand même là, par Biogen. Ils veulent savoir s'il y a quelque chose qui se passe assez tôt dans le développement mm-hmm. du médicament. En fait, un objectif, nous, ce qu'on développe, ça s'appelle des biomarqueurs. Donc, c'est un indicateur que la maladie progresse ou un indicateur que le médicament a un effet positif sur le cerveau. Donc, ces biomarqueurs-là nous permettent d'avoir des cohortes de patients dans les études cliniques qui sont plus petites, donc des plus petites cohortes pour mm-hmm. pouvoir voir un effet plus rapidement. Donc, dans les faits INECA, ce qu'on essaie d'aider à faire, c'est accélérer le développement du médicament, s'assurer que les bons médicaments se rendent au marché plus rapidement et se rendent au marché tout court, en fait, parce que pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est des signatures qu'on est capable de montrer qui peuvent, évidemment, exactement comme vous avez dit, là, montrer que les médicaments touchent leur cible, puis on peut continuer le développement clinique de ces traitements-là.
Et pour des maladies qui sont assez diverses, parce que l'Alzheimer et la sclérose en plaques n'ont pas du tout les mêmes manifestations chez les personnes qui en sont atteintes. Là. Ça ne se présente pas du tout de la même façon. Mais pourtant, les deux, ont, entre autres, comme origine cette matière blanche là, que vous pouvez maintenant, je dirais, regarder, scruter.
Oui, bien absolument. Puis c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que dans cette recherche-là, puis dans ce développement-là, on peut trouver des mécanismes qui sont assez communs, en fait. Mm-hmm. La sclérose en plaques, évidemment, ça attaque beaucoup plus jeunes, les patients, principalement des femmes, puis à des âges beaucoup plus jeunes. Alzheimer, beaucoup plus vieux, évidemment. Sauf qu'on est capable de voir dans quelle région du cerveau. Ça a beaucoup rapport avec les régions du cerveau. Mm-hmm. Puis les manifestations vont se produire dans ces régions-là, puis ça va affecter le cerveau d'une manière différente. Par contre, on est capable de voir qu'il y a des niveaux d'inflammation. Donc, on parle d'une réponse immunitaire possible, là, du corps qui s'attaque lui-même à long terme au cerveau. Puis c'est là, c'est quoi l'origine de ça? Ben, le guess de tout le monde est aussi bon que
oui, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est des conditions du milieu de vie qui ont fait qu'il y a une détérioration? Parce qu'il y a eu des études qui ont démontré que la matière blanche chez les jeunes pianistes prodiges se développait plus rapidement. Alors, on peut penser que l'apprentissage a un effet aussi sur le cerveau.
Absolument. Puis ça, d'ailleurs, avec des techniques qui ressemblent beaucoup à ce qu'on utilise chez IMECA, on peut voir qu'il y a des connexions, des liens qui se font. Fait que c'est évident que, en fait, la réponse à ça est pas simple, sauf que c'est sûr que c'est une combinaison de tous ces facteurs-là. Donc, il y a des problèmes des facteurs génétiques, il y a des facteurs d'environnement, etc., de conditions de vie, c'est de milieux sociaux, etc. Juste la sclérose en plaques, par exemple, attaque dans les pays les nordiques. Là. Plus on s'éloigne de l'Équateur...
On peut se demander pourquoi, mais on va devoir s'en parler une autre fois, M. Bélanger.
Oui.
C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. C'est un sujet très intéressant. Merci d'avoir été là avec nous. Et puis, bonne chance dans vos recherches.
Merci.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour après la pause, après la sclérose en plaques, l'Alzheimer, les façons de mieux découvrir la pertinence, l'efficacité des médicaments, après avoir parlé d'emploi auprès de la fonction publique, on va revenir à quelque chose de plus ludique. On va parler de lecture, puis du plaisir de lire de toutes sortes de façons. Et en notre compagnie, nous avons Mme Ariane Chalifoux. Bonjour Mme Chalifoux.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Je vous remercie. Vous êtes bibliothécaire coordonnatrice au service de l'accueil et de l'accessibilité à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Vous êtes un diffuseur important de livres en toutes sortes de formats, spécialement pour les personnes qui ont, comme nos auditeurs et moi-même, une déficience visuelle.
Oui, effectivement, le SQLA, le Service québécois du livre adapté, est situé à la Grande Bibliothèque à Montréal depuis 2005. Donc, on est un guichet unique pour l'ensemble des résidents au Québec. Donc, on produit des formats adaptés. On a dans nos formats adaptés des formats audio en format DAISY en ligne ou qu'on peut recevoir par livraison postale sur un CD. Il est aussi possible pour les personnes qui maîtrisent le braille d'avoir accès soit avec par téléchargement avec un afficheur braille à des titres en braille de manière électronique, mais aussi en version papier qu'on peut recevoir aussi gratuitement par la poste.
Et votre collection est quand même importante parce que vous avez regroupé ce qui existait à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Vous avez aussi regroupé ce qu'il y avait à la Magnétothèque, qui est Vues et Voix, donc Canal M est une des activités. Vous avez combien de titres maintenant dans votre portefeuille?
Pour les titres en braille, on en a autour de 14 000. Mm-hmm. Pour ce qui est des titres en version audio, on en a un peu plus de 24 000. Puis la collection est constamment en train de grossir.
De croître, oui.
Oui, de croître, parce qu'en plus, tout dernièrement, suite à la signature du traité de Marrakech que le Canada a signé, Bibliothèque nationale et Archives nationales du Québec s'est joint au consortium du livre accessible. Mm-hmm. Donc, ça permet de faciliter les échanges entre les pays de documents de format adapté. Donc, on peut retrouver dans nos collections plusieurs titres là, de l'association Valentin Oui, par exemple.
Mm-hmm.
Puis aussi depuis avril 2021, les abonnés du SQLA peuvent aller directement sur le site du consortium du livre accessible pour s'abonner eux-mêmes, puis avoir accès à l'ensemble du catalogue du consortium. Donc,
ce qui est une toute la mise en commun de ces ressources-là.
Oui, parce que nous, on a, notre collection est très grosse. C'est une des plus grosses en Amérique du Nord parce qu'elle est francophone. Mais le consortium va permettre aux personnes qui voudraient lire des livres en espagnol, en arabe, en portugais, ils peuvent avoir accès via ce site web-là qui est sur le site abcglobalbooks.org.
ABC comme le début de l'alphabet, ABC.
GLOBAL.
Oui.
BOOKS.org.
.org. ABCglobalbooks.org.
Oui, donc ils peuvent accéder. Lorsqu'ils sont abonnés au SQLA, ils peuvent créer eux-mêmes leur compte. Puis à partir de ce moment-là, ils peuvent avoir accès à plusieurs bibliothèques là, qui donnent des formats adaptés à travers le monde. Il faut juste faire attention aux formats qui sont accessibles parce que, par exemple, l'un des formats les plus importants est le format DAISY pour l'audio, mais les États-Unis ont un format particulier à...
OK, un autre standard. Un autre standard de diffusion ou voilà. Est-ce qu'il faut, pour les livres issus des bibliothèques ou des ressources américaines, est-ce qu'il faut avoir un autre appareil qui est le leur?
C'est une bonne question. Probablement, il est probablement possible d'avoir une application pouvoir y avoir accès, mais je n'ai pas encore creusé la question.
Okay. C'est un peu comme le système métrique puis le système impérial. Des Fahrenheit ou des Celsius, il fait froid ou il fait pas froid, mais c'est il faut le savoir puis il faut être adapté.
Oui, mais la majorité des titres, c'est quand même du format DAISY. Il y en a plus que 120 000 titres qui sont accessibles.
On parle de format DAISY parce que entre nous, on sait de quoi il s'agit, mais peut-être ce serait bon de rappeler à tout le monde, c'est quoi DAISY?
C'est avant tout, c'est un format qui est accessible, qui va permettre la navigation pour les personnes qui auraient une difficulté, une déficience perceptuelle, avoir accès à un livre. Donc, ils vont pouvoir mettre des signets, ralentir, sauter un chapitre, sauter un paragraphe, donc avoir le même plaisir que la lecture d'un imprimé. Donc, ce format-là, DAISY, va être compatible soit avec des applications qui sont soit une application qui est payante comme VoiceOver, sinon pour les personnes qui ont une déficience qui ont une déficience visuelle au Québec, la RAMQ va rembourser l'appareil Victor qui va permettre soit le Victor Stream ou l'appareil Victor.
Un Victor, ça ressemble un peu à ce qui était avant les Walkman, là.
Hein? Oui, c'est ça.
C'est rond, puis ça s'ouvre un peu comme un moule à gaufre.
Oui, puis il y en a même des nouveaux. Le Victor Stream, qui est tout petit, qui est la grosse. Il est plus petit qu'une manette.
Okay.
On peut tenir dans sa main, qui permet d'avoir des fichiers là, qu'on peut télécharger. Mm-hmm. Donc, on peut facilement se promener avec, marcher avec, pour pouvoir écouter là, ces fichiers qui sont adaptés.
D'accord. Si quelqu'un vient de perdre la vue récemment, et puis des fois, en particulier, je pense aux personnes âgées qui voient malheureusement la perte de vision comme étant une fatalité, là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y pallier. Comment ça marche pour s'inscrire, pour mettre le pied dans l'étrier? Par exemple, moi, je pars de zéro, je ne suis plus capable de lire l'écrit. J'appelle à votre service. Qu'est-ce que je dois faire?
Bon, c'est assez simple. L'abonnement est gratuit. Il faut être québécois.
D'accord.
Ce que vous pouvez faire, une des façons les plus simples, c'est avec une perte de vision, c'est aller à son centre de réadaptation. Les centres de réadaptation connaissent le service québécois du livre adapté. Ce qu'on va vous demander, c'est remplir un formulaire, puis fournir une attestation qui prouve que vous avez une déficience.
Oui. Si c'est gratuit, c'est parce que j'ai une déficience, puis c'est pas parce que je suis capricieux puis j'essaie un nouveau truc, là.
Non, c'est ça. Mais c'est juste, c'est aussi là, pour respecter le droit d'auteur.
Tout à fait.
Parce que le format adapté, il y a comme un contournement qui se fait avec l'article 32 sur la loi sur le droit d'auteur qui permet de donner un autre format. Donc, étant donné que l'imprimé ne suffit pas pour être capable d'avoir accès à l'information qui est dans le titre, on va avoir accès à une version audio ou une version en braille pour pouvoir détourner. Mais cet article-là fait vraiment, détourne vraiment en lien de qu'est-ce qu'il considère comme la déficience perceptuelle. Donc, fait que l'abonnement est gratuit. Les gens peuvent retrouver le formulaire d'abonnement sur le site du SQLA.
D'accord. Puis votre site, c'est sqla.org? Ou...
Non, c'est le site... Donnez-moi deux secondes. C'est SQL, c'est
banq.qc.ca. Oui.
/SQLA.
OK, parfait. Puis à partir de là, on peut retrouver le formulaire qu'on doit imprimer, faire signer par les personnes qui vont attester de notre situation.
Oui, ça peut être un médecin, un optométriste.
D'accord.
Un professionnel, un éducateur spécialisé, quelqu'un un trouble d'apprentissage, par exemple, parce que c'est aussi ouvert là, aux personnes qui auraient de la dyslexie ou un autre problème là, en lien avec les troubles d'apprentissage.
D'accord.
Il est possible aussi de nous téléphoner là, dans la région de Montréal. On a une ligne téléphonique là, du lundi au lundi. On est ouvert 7 jours.
Okay.
Vous pouvez nous rejoindre, ça va nous faire plaisir de vous répondre, là, au 514-873-4454.
8-7-3-4-4-5-4 dans le 514.
Oui.
Merci.
Puis alors au Québec, c'est le 1-866 410-0844.
8-866-410-0844.
Oui, vous avez une excellente mémoire.
J'essaye. Quoi qu'il en soit, donc une fois que le formulaire est rempli, que la demande est acceptée, on peut se procurer donc des livres, des documents gratuitement. On peut demander de recevoir un appareil DAISY parce que cet appareil-là aussi est gratuit pour des personnes qui ont une difficulté à appréhender l'écrit, qui ont besoin de ça pour pouvoir lire. Ben ça, c'est super. Quel genre de livres qui sont les plus couramment demandés? Ça doit ressembler au lectorat de gens qui utilisent l'écrit.
Oui, énormément. T'sais, l'un de nos titres les plus populaires, Louise-Étienne Tremblay, je suis pas capable de donner son nom, mais Louise Tremblay des Cendres.
Ah, d'accord,
oui, pardon.
Mais ça, c'est un livre populaire, là, de grande portée, là, oui.
Oui, c'est ça, les livres de grande portée, Kim Thuy, Michel David, mais sinon, on en a pour tous les goûts, là. Mm-hmm. On va retrouver aussi plusieurs, on a des romans pour adolescents, on a des romans populaires, on a des romans qui sont... Oui, on a de tout.
Parfait. Et dans votre catalogue, on peut retrouver ça. Si, par exemple, moi, j'aime les polars, les romans policiers, je peux retrouver une liste de romans ou de ce que vous avez, et puis là, soit par auteur ou soit par type de lecture.
Oui, par thème, oui, il est possible de chercher, par exemple, oui, sans
Parce
problème.
Que ce qui est important, du point de vue de votre clientèle, c'est que si un livre nouveau et populaire vient de sortir, c'est important qu'il soit accessible de toutes sortes de façons immédiatement aussi.
Sauf que parfois, il y a un petit délai qui se fait parce que nous, on doit attendre, il faut qu'on fasse la version adaptée. Donc, lors de l'apparition qui pourrait avoir lieu aujourd'hui, il faudrait parfois attendre un délai de 3 à 6 mois pour qu'il soit accessible.
D'accord.
Pour une version audio ou une version qui serait en braille.
OK. Parce que c'est sûr qu'on a envie de participer à la conversation avec nos amis puis de dire « Ah oui, moi aussi, je l'ai lu. » Puis je me demandais aussi, tel personnage m'intriguait beaucoup, puis ainsi de suite. Alors, ça fait partie du plaisir de lire. Ça fait partie de ça. C'est le plaisir de partager nos lectures avec... avec les gens qu'on connaît, tout à fait.
Par contre, les personnes qui ne sont pas allergiques aux voix de synthèse, parce qu'il y a de plus en plus de normes. Par exemple, on a un format qui s'appelle le EPUB 3 qui permet d'avoir une transcription qui serait automatique, mais qui donnerait quand même une amélioration là, avec une voix de synthèse pour avoir accès à un livre qui vient de sortir dans l'immédiat. Il y a plusieurs titres qui sont sur la base de données prénumérique. Prénumérique est une base de données que BNQ est abonnée.
Mm-hmm.
Donc, les abonnés peuvent avoir accès au format EPUB, puis avec certaines applications, ils pourraient avoir accès à une voix de synthèse.
D'accord.
Ou être en mesure, avec un afficheur braille, de pouvoir avoir accès.
Okay.
Mais ce serait du braille intégral.
Bien, c'est sûr qu'une voix de synthèse, c'est un peu moins émouvant.
Hein? C'est... Non, c'est ça.
Puis, il n'y a pas non plus la qualité de l'intonation. Je sais que dans les voix de synthèse, il y a même un petit bouton qui est marqué « ton chaleureux ». Mais ça, oui. Ça fait un petit peu oxymore là, qu'un ordinateur ait un ton chaleureux. Mais enfin, tout est possible.
Oui, on peut même choisir les accents qu'on préfère.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai lu plusieurs fois avec une voix de synthèse parce que je n'avais pas la patience d'attendre l'autre version. Ça, à la longue, on s'y fait, mais il faut être capable de choisir dans les paramètres, là, de trouver la voix de synthèse, la bonne vitesse qui nous choque moins l'oreille, si je peux dire.
Oui.
Voilà. Est-ce que vous avez, c'est quoi votre rotation? Il y a combien de livres ou n'importe quelle forme qui sort de chez vous par mois, par année?
C'est une bonne question. On a à peu près, là, c'est sûr qu'avec le consortium du livre adapté, on a à peu près une centaine de nouveaux titres là, en audio par mois.
Mm-hmm. Je vais faire, qui s'ajoutent.
Ouais, grossièrement, là.
Uh-huh.
On aurait une bonne partie, là, mettons, entre 40, 50 titres québécois. Parce que la majorité des titres qu'on va produire, BNQ, qu'on va demander une production, qu'on va demander une adaptation, ça va être des titres canadiens, mais majoritairement québécois.
D'accord.
Puis ce qui vient de l'international, on va utiliser le consortium pour les ajouter dans nos collections du SQL.
Donc, à chaque mois, il y a un nouvel arrivage. Donc, on peut compter sur un renouvellement. Parce qu'on peut avoir des nouvelles lectures qui nous sont proposées chaque mois.
Ben, oui.
Ça, c'est formidable. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Chalifoux, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, parce que pour certains, ça semble être l'évidence, mais pour d'autres qui viennent de se joindre à nous du côté obscur de la vie, ça peut des fois bien dépanner. Ben, je vous remercie.
Oui. Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Extrait des Quatre saisons de Vivaldi, c'était l'hiver, en fait, c'était le deuxième mouvement d'hiver. Le mouvement qui est un peu plus lent, c'est interprété par Itzhak Perlman, un des plus grands violonistes du 20e siècle et après. Alors voilà, c'était l'hiver parce que nous en sommes en plein cœur en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons le plaisir, encore une fois, d'avoir en notre compagnie Mme Christiane Campagna, recherchiste globetrotter du clavier. Hein? Voilà.
Oui.
Comment ça va?
Ça va très bien, François, et vous?
Ça va très bien, merci. Qu'est-ce qui se passe dans les gares américaines?
Bien, Amtrak devra verser 2 millions de dollars à des passagers en situation de handicap qui ont rencontré des obstacles dans les gares d'Amtrak. Mm-hmm. Alors, c'est plus de 1500 personnes handicapées qui ont rencontré de la discrimination, donc dans près de 80 gares à travers le pays. Oh. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Justice. Les paiements cette première action mandatée par un règlement conclu l'année dernière entre le chemin de fer et le ministère de la Justice oblige Amtrak donc à rectifier aussi les obstacles persistants à travers son système ferroviaire. Quand on parle d'obstacles, on parle notamment de zones d'attente trop étroites, de places de stationnement sans panneaux, alors qu'on indiquait qu'on avait des places accessibles, des pentes trop abruptes pour les plateformes de passagers et les passages à niveau, et aussi des toilettes qui ne pouvaient pas accueillir de fauteuils roulants. C'est donc le ministère de la Justice qui a intenté la poursuite contre Amtrak puisqu'il y avait eu des plaintes de faits qui n'étaient pas qui contrevenaient au fond à l'Americans with Disability Act.
2 millions, ça semble pas beaucoup d'argent. Puis en fait, c'est les 1500 personnes qui se sont identifiées, mais on peut penser qu'il y a eu des dizaines de milliers de frustrations, si je peux dire.
Oui.
C'est surtout important de rectifier la situation.
Sans aucun doute. Je pense que la partie la plus importante du jugement, c'est pas tant le montant remis aux personnes que l'obligation, en fait, pour Amtrak, là, au cours des 9 prochaines années, de repenser 90 gares à travers le pays pour les rendre accessibles à tous les passagers, en plus de commencer la construction là, dans 45 autres gares, et de former son personnel pour qu'ils connaissent bien les exigences de l'Americans with Disability Act. On rappelle que c'est cette loi qui a été adoptée en 1990 et qui interdit la discrimination à l'égard des personnes handicapées et qui, contrairement à certaines lois au Canada, c'est pas seulement ce qui est de juridiction fédérale. Ça concerne tout lieu public.
D'accord. Amtrak, pour avoir déjà pris le train Montréal-New York, là, à quelques reprises. C'est curieux, mais dans l'Amérique, effectivement, le chemin de fer est un peu un parent pauvre, on va dire ça comme ça, par rapport à ce qui se fait en Europe. Là, les Américains, le chemin de fer, après le Far West, là, c'est comme si la lune de miel était terminée. Puis à Amtrak, là, c'est pas toujours dernier cri, on va dire ça comme ça.
Alors qu'en ce moment, les Américains ont un président amoureux du chemin de fer.
Bon, bravo.
Utilisateur régulier pendant toutes les années où il était sénateur. Mm-hmm. Alors, ce serait une bonne idée.
Oui, oui, tout à fait.
de moderniser la chose.
Aux États-Unis, encore.
Oui, cette fois-ci, je vous parle de cinéma. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, il y a un film français qui avait connu un grand succès qui s'appelait « La famille Bélier ». C'était en 2014. Mais les Américains ont fait une version, leur propre version de ce film. Cette année, il s'appelle CODA, pour l'acronyme de « Child of Deaf Adult ». Alors, c'est qu'on pourrait traduire par « enfant de parents sourds », là, qui désigne en anglais donc un enfant qui, lui, est entendant, mais dont les parents, dont la famille, les personnes sont sourdes. Le film se passe dans le Massachusetts. Ça va mettre en vedette la famille Rossi, qui est une famille de pêcheurs, dont Ruby est la seule membre de la famille à ne pas être sourde, et elle chante dans une chorale. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait une reprise d'une chanson de Michel Sardou là, qui avait eu un grand succès suite à...
Ah, d'accord. Mais je ne pense pas que la petite Ruby au Massachusetts chante du Michel Sardou. Là. Ça va peut-être être autre chose.
Ce serait étonnant. Mais il y a un article très intéressant qu'il y avait la semaine dernière dans le Los Angeles Times qui nous parlait de la scénarisation d'un film où, comme dans ce cas-ci, la moitié des dialogues sont en American Sign Language.
OK.
Au fond, c'est un texte écrit par la scénariste. Elle demande « Comment écrivez-vous pour une langue qui n'a pas de forme écrite? » Alors, elle explique son cheminement. Elle dit que lorsqu'elle a commencé à étudier la langue américaine des signes, elle a été frappée par la différence entre cette langue et l'anglais parlé. C'est pas seulement la grammaire et la syntaxe, mais ce sont les méthodes pour transmettre les concepts qui ne sont qu'en plus des signes. Ça va bien au-delà. Les expressions, l'énergie, l'espace qui vous entoure sont utilisés pour communiquer un sens. Elle explique que, bon, en tant que personne qui était étrangère à ces concepts-là, elle a d'abord commencé à écrire son scénario comme elle écrit chaque film.
D'accord.
Comme elle dit, ben là, je traduis avec un filtre, disons, de personne qui entend. parce que, bon, comme elle dit, son cerveau d'écrivain ne connaissait pas d'autre façon de travailler. Alors, elle écrivait, comme d'habitude, quand elle écrit des personnages, là, ça se passe dans la région de Boston, elle avait dans sa tête, en écrivant les textes, l'accent de Boston, mais à un moment donné, elle s'est dit, ben voyons donc...
Il y a peut-être une version bostonnaise de l'American Sign Language, mais...
c'est ça, elle a dit, est arrivé un moment où il fallait éteindre la radio qui tournait dans sa tête.
Oui,
parce
oui.
que ce qu'elle avait dans sa tête, elle n'allait jamais l'entendre dans le dans le film. Elle allait le regarder et que ses façons habituelles de travailler n'étaient plus pertinentes, qu'elle écrivait pour une langue qui n'existait que visuellement et que même elle n'avait aucune idée si par exemple, des blagues qu'elle écrivait allaient fonctionner.
Oui, tout à fait. On peut penser qu'il y a des régionalismes du Massachusetts dans la ASL. Mais les blagues aussi, ça peut changer.
Pas.
Et puis, il y a beaucoup d'intonation en langue des signes qui est en fait, il faut être là pour le voir puis comprendre l'intonation.
C'est là que sont arrivés des spécialistes, dont d'abord une Alexandria Wells, qui est sourde, mais aussi une artiste, parce que ça prenait quand même des personnes, vous ne prenez pas pour ça des personnes qui ont l'habitude de faire de la traduction à la Maison-Blanche, par exemple.
Non.
Donc, ils sont passés à travers le scénario, ils ont travaillé ligne par ligne. Elle se faisait poser beaucoup de questions sur le sous-texte, parce que parfois, c'est ça qui va amener à choisir ce qui va être décrit. Il a fallu parfois modifier des blagues, parce que traduit en langue des signes, elles ne fonctionnaient plus. Et pendant ce temps-là, ben aussi, cette spécialiste-là, Alexandria, prenait des notes dans un système qui s'appelle le ASL Gloss, qui est une forme de notation pour l'ASL, mais aussi, elle utilisait des diagrammes, des dessins, elle a fait des vidéos pour les acteurs, parce que ça prenait tout ça pour pouvoir leur transmettre ça par la suite. Et on dit que quand les acteurs sont arrivés, en plus, Marlee Matlin, notamment, qui avait gagné un Oscar à la fin des années 80, ben eux aussi, on dit, ben non, moi je pense que mon personnage ferait plutôt tel signe.
Que
alors,
telle
ils
façon,
avaient leur
voilà.
Idée
oui.
là-dessus. Alors, c'est encore une fois un rappel qu'il ne suffit pas de dire, ah, ben, on va faire un film, puis ensuite,
on va écrire un film, puis on va le traduire, puis ça va coller. Parce qu'il y a un aspect culturel aussi qui peut-être pouvait lui échapper de son point de vue d'entendante. Le film a été produit en 2021. Est-ce qu'il est sorti?
Oui, je pense même qu'il est en nomination aux Oscars, mais je vais fouiller.
Oh,
comme les Oscars vont approcher au printemps, je vais fouiller tout ça pour qu'on ait une meilleure idée.
C'est Coda. Ce serait intéressant de voir si, évidemment, la portion qui est en langue des signes, est-ce qu'il y a un sous-titre pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas familiers ou...
Oui, parce que il y a aussi...
Une vidéo description aussi, là, parce que un film avec langue des signes et sous-titres, pour quelqu'un qui voit mal, ça on s'avance pas beaucoup.
Oui, c'est ça. Ça ajoute des couches de filtres.
Ouais.
Mais aussi, voir ce qui va se passer du côté des Oscars. L'année passée, Mme Matlin était là.
Oui.
Elle présentait quelque chose. On entendait son interprète. Elle a toujours un interprète masculin.
Mm-hmm.
Et elle signait, mais à un moment donné, la caméra a filmé des réactions d'acteurs dans la salle pendant qu'elle disait les nominations, mais ça veut dire que les personnes qui regardaient ont perdu les signes.
Ah.
Parce que les personnes qui faisaient la réalisation du gala n'ont
oui.
pas pensé.
Ben oui, ils ne pensaient pas avoir ça en mortaise dans le coin, là, pour qu'on puisse continuer.
Exactement. Puis rapidement, ben, on revient chez nous, ben, on revient chez nous, puis en même temps, c'est ça. Le BDS Jean-Paul Hyde a remporté le prix de la critique de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée de la BD québécoise pour son œuvre Le Petit Astronaute.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un roman graphique où il raconte l'histoire de Tom, un jeune garçon qui vit avec une lourde paralysie cérébrale, mais sous le point de vue de sa sœur, qui est la narratrice, ça met vraiment en valeur la fratrie, ce qu'on ne voit peut-être pas toujours.
Mm-hmm.
Et Jean-Paul Hyde est lui-même le père d'un fils ayant un lourd handicap, là, qui est aujourd'hui adulte. Alors, ça lui a pris des années à se décider à trouver les bons mots, les bons dessins, surtout.
Oui, comment mettre une histoire en place de la bonne manière.
Et de présenter une œuvre lumineuse, peut-être différente de ce qu'on voit souvent sur le handicap, des gens justement qui sont de l'extérieur, qui ont peut-être un regard plus misérabiliste.
On peut penser que la pesanteur a libéré son corps.
Oui, voilà.
Ben, je sais pas, mais j'imagine ça, là.
Mais en dernier, il avait déclaré à Plus on est fou, plus on lit à Radio-Canada, n'avoir jamais trouvé d'image positive qui parlait d'handicap, et c'est ce qu'il a décidé à faire.
Ah, mais ça, c'est décidé. Très bien. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire ici, à Canal M, chaque semaine. Voilà.
Absolument.
Merci beaucoup, Christiane Campagna, notre recherchiste, Nicolas Wartmann, à la régie. On se revoit tout le monde par les oreilles la semaine prochaine.